Les goélettes de Charlevoix sillonnaient le fleuve Saint-Laurent pour ravitailler les villages en vive, transporter le bois vers les papetières. C'est 300 ans de relation avec le fleuve. On a beaucoup parler de ces hommes et de la mer, du Saint-Laurent si difficile à naviguer, qui prenait des vies au gré des tempêtes. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment des femmes qui restent à terre, les terres de roche de Charlevoix? On a bien peu parlé d'elles. Elles étaient épouses, mères, cuisinières, gestionnaires, mais aussi entrepreneurs, développeurs, rarement navigatrices, mais parfois membres de l'équipage. À travers ce balado de 6 épisodes, on s'invite chez ces femmes, au pays des goélettes.
Mon grand-père a navigué, mon père a navigué et j'ai marié un marin. Et je suis sûre que si j'avais été un garçon, j'aurais été sur un bateau aussi. Je suis sûre que j'ai de l'eau salée dans les veines aussi.
Danielle Desgagnés-Bouchard, petite fille, fille et épouse de marin, est de l'aventure du musée maritime depuis ses tout débuts, il y a 40 ans.
Dernier épisode. On a voulu parler à des femmes au pays des goélettes, même poser le regard sur celles d'aujourd'hui. Qui s'occupent de bateaux? Jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, il faut le dire, il y avait une femme qui menait l'administration portuaire de Montréal, Sylvie Vachon. Une femme dirige aujourd'hui l'Institut maritime du Québec à Rimouski, Mélanie Leblanc. Deux femmes prennent soin de deux musées maritimes, Marie-Claude Gamache et Marianne Rainville. Et Manon Lavoie, notre invitée, dirige les chantiers du groupe Océan. De père en fille, on peut hériter de la connaissance et de la passion des bateaux, on dirait bien. Ici Marie Grégoire. Loin d'être didactique, notre volonté, c'est de vous faire découvrir, je dirais même de façon ludique, des paroles de femmes qui ont vécu, observé, qui se passionnent aussi pour les goélettes. Et pour nous faire voguer à travers les flots de leur histoire, la musique de Stéphane Tétrault, violoncelliste, et de Noëlla Huet, mezzo-soprano, avec l'accompagnement de David Bouchard, comédien.
La voile, monte la voile, accroche-la aux étoiles. Je hisse mes draps d'amour, je fly sur l'océan. Viking de faubourg, empereur du néant. Au retour des lumières, les dieux me font offrande d'un tas de roches ordinaires. Oui, mais c'est l'Irlande. La voile, monte la voile, accroche-la aux étoiles.
Mon grand-père était Calfa, mon père, puis une maison. C'était pour rendre le bateau étanche, pour pas qu'il fasse l'eau. C'était très important, certain. Ben, mon père, il l'a appris de mon grand-père. Ça se transmettait d'une personne à l'autre, là. Mon grand-père, je sais pas de qui a appris ça, mais lui, il allait même calfeter à Petite-Rivière-Saint-François ou quand il y avait des bateaux en construction, là, les goélettes, c'est pas nécessairement quand il était en construction, quand il avait passé l'été à naviguer, puis que là, il venait au chantier pour passer l'hiver pour... des fois, il avait besoin de refaire des joints qui s'était défaite un peu durant l'été, là. Il avait besoin de le réparer.
Louisette Boivin-Tremblay, de Saint-Joseph-de-la-Rive, a navigué dans les années 50. Elle faisait la cuisine avec sa grand-mère, Marie-Ange Tremblay.
Ça vous parle, ça, Manon Lavoie? Vous êtes la chef des chantiers du groupe Océan. Quand on vous parle, justement, de construction de bateaux, là, ça vous fait vibrer pas mal, ça.
Ah oui, pas mal. Je l'entendais calfater au tout début de ma carrière. J'ai eu à travailler sur des navires de bois, puis il y avait justement un monsieur de l'île aux Coudres, monsieur Maurice, et puis il nous avait montré comment faire ça, le calfa et l'étoupe et tout ça. Je trouve ça passionnant, oui.
Parce qu'il y a une tradition qui se transmet, j'imagine, hein? Cette passion-là, comme le disait notre intervenante, ça se transmet. Mais vous, vous avez... vous avez cette passion, je dirais, de la navigation avant, parce que c'est comme ça que ça commence. Oui. On me dit même que vous auriez été conçu sur un bateau.
Ben oui. C'est très vrai. Alors oui, j'ai été conçue sur la goélette, la Marie-Renée, qui était une goélette à mon père et mon grand-père. C'est une histoire de famille aussi dans ce temps-là. Alors oui, si on fait les calculs, normalement, j'ai été conçue l'été et mon père, il naviguait l'été. Alors c'était vraiment, oui, sur la goélette.
Et c'est comme ça qu'on tombe en amour avec, ou parce qu'on a le sang salin, ou parce qu'on tombe en amour avec la navigation, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on se devient chef d'un chantier comme le chantier Océan?
Ah oui, moi, c'est vraiment une histoire d'amour, puis je pense que c'est une histoire de c'est vraiment, vous l'avez dit, de père en fille. J'ai navigué avec mon père tous les étés quand on allait à l'école. Et là, c'est ça, la famille, on embarquait sur le bateau, là, tout jeune. J'ai des photos, justement, que j'ai montrées à Marianne, que je suis vraiment avec mon père. Je suis toute petite, j'ai peut-être 7-8 mois. Puis je suis assise sur lui dans la timonerie. Alors, on faisait les corps avec lui de travail, puis on le suivait tout l'été.
Puis tout petit, vous avez su.
Tout petit, oui. Ah oui, ça, c'est... mon père, moi, je me rappelle pas, mais mon père, il se plaît tellement raconter à tout le monde qui veut bien l'entendre, surtout que maintenant, je construis des bateaux. Alors, j'ai vraiment suivi ma voie, comme il dit. Alors que, c'est ça, on naviguait avec lui, puis on passait dans les écluses pour... monter sur les grands lacs, et puis j'étais sur le pont avec mon père, je le tenais par la main, parce que je regardais les gros bateaux. Nous, on était tout petits à côté des gros bateaux. Et puis, à un moment donné, je lui disais, « Ah, moi, je vais t'en construire des gros bateaux comme ça. » J'avais 3 ans.
Incroyable!
3 ans, puis j'ai jamais, c'est ça que je dis après, j'ai jamais changé, puis ça a toujours été en moi. Je savais jamais quoi faire d'autre. C'était toujours « je veux construire des bateaux ». Je savais pas comment, mais j'allais construire des bateaux.
Donc, vous trouvez cette voie-là toute jeune, oui. Puis vous persévérez. C'est quoi le chemin que doit prendre une femme pour construire des bateaux?
Bien, c'est très simple. Alors, on s'inscrit à l'Institut maritime du Québec. C'est la seule place au Québec, d'ailleurs.
Mais on est riche de ça quand même, au Québec?
Oui, on est riche de ça, c'est ça. C'est une très bonne école. Alors, on part toute jeune, à 16 ans, on s'en va à l'école à Rimouski, oui. C'était mon seul choix de carrière en secondaire 4, secondaire 5, quand on fait notre parcours à l'époque avec nos orienteurs. Et j'avais seulement ce choix-là. Et à l'époque, c'était contingenté. Maintenant, c'est loin de là, mais à l'époque, c'était contingenté. Puis il m'avait demandé, mais là, si t'es pas choisi, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Bien, j'avais aucune idée. Je dis non, c'est impossible que je sois pas pris. C'est impossible. Alors, dans ma tête, c'était vraiment seulement mon seul choix de carrière, c'était d'aller en architecture navale à l'Institut maritime.
Puis il y avait beaucoup de femmes à ce moment-là?
Et nous, on était la plus grosse cohorte quand on a rentré, c'était en 86. C'était la plus grosse cohorte, il y avait 10 filles.
Quand même.
10 filles sur 40. On était la plus grosse cohorte déjà en architecture navale. Et je crois que je suis la seule qui travaille dans le domaine encore.
Ah, pour vrai?
Oui.
Donc, comment vous expliquez ça? Parce que, finalement, elles ont bifurqué dans leur carrière, puis ou parce que c'est un monde plus hostile pour au féminin?
C'est sûr qu'après la première session, la première année, il y en a la moitié qui lâche. C'est quand même un cours qui est plutôt difficile. Puis on est à l'Institut maritime, je veux dire, on est à peut-être 400-500 élèves. Il y a peut-être même pas 10 % de filles. Alors, c'est un monde un peu difficile. Et c'est ça. Après, on est 5, je crois, qui a terminé nos études en architecture navale. Et bien, c'est ça, les gens ont changé de domaine parce que c'était pas évident. C'était peut-être pas tout à fait féminin. Alors, puis aussi, au Québec, il n'y avait pas énormément de travail dans les années 90.
Oui, c'est ça, les opportunités étaient
plus difficiles. C'est ça, ils ont changé tout simplement de carrière.
Et là, vous entrez directement chez Groupe Océan?
Eh oui, je suis rentrée stagiaire pour 3 mois.
Alors... Comme on dit, la personne est rentrée pour 3 mois et elle y a passé sa carrière.
Oui, exactement. Elle est encore là après... justement, aujourd'hui, je fête mon 31e anniversaire à l'Île aux Coudres.
Bien, félicitations. Oui. Félicitations, ouais. C'est pas rien parce qu'évidemment, on voit les gens faire plusieurs carrières dans une vie professionnelle. Oui. Vous avez été, donc vous avez gravi tous les échelons. Ça vous permet aujourd'hui, j'imagine, d'être une chef de chantier qui a une connaissance fine des différents
oui,
aspects?
Très, très fine. J'ai passé par tous les chemins. Dans le fond, j'ai fait ma carrière à l'intérieur de Océan. À l'époque, c'était pas Océan, c'était AML. Et puis, mais c'est ça, j'ai eu des belles opportunités, puis je pense qu'ils ont cru en moi tout le temps. J'ai toujours mis l'effort, mais j'ai peinturé, soudé, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire sur le chantier, puis c'est comme ça que j'ai grandi dans l'entreprise.
On revient tantôt pour parler justement de la place des femmes dans le milieu maritime.
Les prunelles tournées vers l'enfance des pierres. Au fond, dans l'épaisseur de sel, les phares, gemmes aux yeux riches, à brèves paroles, s'allument, s'épuisent. Le fleuve est dans les mots, le silence, lui.
Les morceaux de bois, je les ai achetés et payés, puis je mesurais le bois quand ils venaient livrer. Ils sont allés chercher, parce qu'ici, du gros bois, il n'y en avait plus. Ils ont été chercher ça à l'île aux grues. Cécilia Desgagnés, épouse du capitaine Roland Desgagnés.
Manon Lavoie, on a fait le parcours de ces femmes au pays des goélettes et on s'est rendu compte qu'elles avaient plusieurs rôles. Hein? Certaines étaient les gestionnaires derrière l'entreprise, d'autres s'occupaient même d'aller acheter des moteurs, donc d'être à l'approvisionnement. Comment vous qualifiez le parcours de la place des femmes dans le monde maritime en général?
En général, bien, mettons, à l'époque, c'était plus dans l'ombre. C'était plus non officiel. Je pense qu'il n'y avait pas de poste officiel pour les femmes. Maintenant, on est bien assumées, même si on n'est pas nombreuses. C'est un peu ça. Je pense que c'est l'ombre
De l'ombre à la lumière, finalement.
De l'ombre à la lumière, oui.
Oui, c'est ça. Parce que vous dites, on n'est pas nombreuses. Ça représente combien de femmes, à peu près? Est-ce que vous avez une idée de la place des femmes dans l'industrie maritime québécoise?
Mon Dieu, québécoise, je ne sais pas. Je regardais justement dernièrement des articles là-dessus, puis on disait que c'est à peu près 2% mondialement. Alors, c'est pas beaucoup.
Non.
Mais c'est peut-être au Québec, on est quand même un peu plus, je crois, là-dessus. Mais c'est sûrement en bas de 10 %.
Ça veut dire que c'est un secteur qui est encore à conquérir pour les femmes.
Oui, bien, je pense que c'est méconnu aussi pour les femmes. C'est méconnu même pour, maintenant, un grand nombre de la population. C'est quand même des métiers qui ne sont pas les plus attirants, probablement.
Bien, c'est intéressant parce que de plus en plus, on réfléchit à ça, puis on se dit pourtant... Le transport maritime devrait occuper une place plus importante dans, dans une perspective de développement durable. Vous, vous voyez comment la place du bateau en général dans, dans l'industrie du transport en particulier?
Moi, je l'ai toujours vu beaucoup présent, malheureusement. C'est ça, il est moins présent qu'il était à l'époque. Je crois sincèrement qu'on devrait retourner vers là pour l'environnement, pour tous ces camions sur les routes, toutes ces... C'est beaucoup plus rentable, d'après moi, de faire des navettes maritimes et tout ça. Mais ça, ça commence à reprendre vie, c'est toutes ces, ces anciennes méthodes, là, je pense, oui. Qui étaient à l'époque. Là, ça commence quand même à reprendre un petit peu plus. On en entend plus parler.
C'est intéressant parce que, bon, on a entendu parler de ce voilier là, qui, oui. Qui traverse l'Atlantique aller-retour pour avoir du zéro émission dans des produits d'importation. Mais dans l'histoire de la goélette là, qui se retrouvait, dans le fond, être l'autoroute 20 de maritime, est-ce que, justement, il n'y a pas des projets qu'on pourrait mettre en place pour ramener plus de vivacité dans cette industrie-là? Est-ce qu'on peut voir une nouvelle goélette du 21e siècle voir le jour?
C'est sûr que ça serait très difficile, une vraie goélette, là, mais je pense qu'elle peut être une goélette 2.0.
Oui, oui, hein? Une goélette moderne. On va la moderniser, notre goélette. On va l'amener à une autre étape. Là.
Oui, c'est ça, parce qu'en bois et tout ça, c'est tellement dispendieux maintenant, travailler ça et trouver juste la main-d'œuvre
oui,
oui. capable de faire ça.
C'est de l'artisanat aujourd'hui.
Ça serait très long et... les arbres à maturité, je pense pas qu'on les aurait non plus ici. Alors, ça serait peut-être difficile, là, sincèrement. Juste trouver pour restaurer avec Marianne, parfois, c'est très compliqué. Alors, j'imagine construire des vraies goélettes, ça serait très compliqué.
Mais de construire de plus petits bateaux de marchandises qui pourraient naviguer sur le Saint-Laurent, ça, c'est pas complètement...
Non, c'est pas fou. Non, c'est pas complètement fou, mais c'est un peu le principe sur la Côte-Nord... C'est encore approvisionné par bateau. Il n'y a pas la route qui va partout jusqu'en Blanc-Sablon.
Oui, oui, c'est ça. C'est en Basse-Côte-Nord, on utilise déjà ça.
Mais il y a des projets présentement qui sont sur la table. Nous, on a travaillé chez Océan des projets comme ça, mais c'est très difficile de les faire avancer présentement. On dirait que les gens ne sont peut-être pas prêts encore à
C'est intéressant genre. Parce que vous dites ça, on n'est pas prêt, mais c'est pas un peu le paradoxe du Québec et de dire on s'est construit sur le Saint-Laurent. Et c'est comme si on l'avait abandonné. On a abandonné notre navigation, notre sang salé dans les veines, sans oublier ça.
Oui. Il ne faut pas oublier que notre fleuve est quand même un peu particulier avec les glaces, l'hiver et tout ça. Ça prend quand même des navires qui seraient capables de naviguer dans la glace aussi pour faire ces navettes-là, parce qu'on ne pourrait pas être 6 mois sans approvisionnement.
Non, effectivement.
Mais c'est sûr que c'est tous des beaux projets qui pourraient... être facilement exécutable.
On peut s'inspirer de cette oui. époque. Une époque
retour
qui
retour aux sources.
Oui, un retour aux sources, mais avec un peu de modernité qui nous permettrait de ramener, comme on le disait, une goélette ultra légère, moderne,
qui est performante,
qui serait adaptée, mais qui répondrait aux défis environnementaux qu'on peut se lancer, nous, au Québec.
Oui,
mais
c'est faisable.
On se le souhaite, Manon Lavoie?
Oui.
Oui, on se souhaite donc de développer ces bateaux du 21e siècle et de renouer avec vos sources, avec nos sources comme Québécois. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Thank you.
Martine ne bougeait plus. À ses pieds se défaisait un frisli de vagues dans un tendre chuchotement. Autour d'elle, dans sa jupe noire, tout était bleu aujourd'hui. Bleu l'eau jusqu'au lointain. Bleu la ligne des collines étagées du côté des éboulements. Bleu l'ombre de l'île aux coudres, tout juste apparaissant au ras du fleuve. Elle se tenait au seuil de l'immensité, avec le regret de ses enfants morts et le souvenir des peines endurées, avec ses deuils et ses chagrins, avec la mémoire de l'attente sans fin de ce retour au fleuve. Et tout était pesé dans une mystérieuse balance. L'attente cruelle et cet instant radieux d'aujourd'hui. Et qui sait si ce n'était pas l'instant qui l'emportait.
Avec le vent qu'il fait, décoiffant les fumées, j'invente les tempêtes et les coups qu'il me manque. Comme avec les cargos qui sont tous étrangers, je refais des bateaux qui nous appartiendraient. Le fleuve, le fleuve.
Mais on avait le temps pareil des fois d'aller s'asseoir dehors. On allait s'asseoir sur le pont, là, puis on regardait ça, là, puis c'était bien agréable. J'ai juste des beaux souvenirs de ça, là. J'ai été plusieurs années, là. À partir de 16 ans, là, j'ai arrêté d'y aller à 22 ans, là, en bateau.
Ainsi se conclut cette balado. Je veux vous remercier d'avoir été avec nous, d'avoir fait ce voyage-là à travers la vie des femmes et à travers l'histoire du Québec et de Charlevoix. C'est un projet du Musée maritime de Charlevoix qui est appuyé par le ministère de la Culture. Notre capitaine, Marianne Rainville, une passionnée des femmes et des goélettes. Sa chef des machines à la réalisation, Francine Plourde. À la recherche et aux trésors musicaux, Alexis Desgagnés. Des femmes nous ont accordé des entrevues, Marie-Pierre Bouchard, Catherine Melançon, Jeanne-Paul Desgagnés, Pierrette Tremblay et Manon Lavoie. On a aussi entendu Louisette Tremblay. Et sont venus témoigner à travers des extraits audio, Daniel Bouchard, Alida Bouchard, Fernande Dufour et bien d'autres, à travers la voix justement de notre réalisatrice. Il faut aussi remercier les merveilleux artistes qui ont fait le voyage avec nous. Noëlla Huet, mezzo-soprano, David Bouchard, comédien, Suzy Gagnon, accordéoniste et compositrice, et Stéphane Tétrault, violoncelliste. Le Domaine Forget nous a accueillis avec son super technicien Alexis Tremblay. Ici Marie-Grégoire, qui termine vraiment un merveilleux voyage en compagnie des femmes au pays des goélettes. J'espère que ce balado vous a fait ressentir l'appel de la mer. Qui sait, on va peut-être se croiser à Saint-Joseph-de-la-Rive pour la suite. Vous pourrez sûrement échanger avec des femmes et voir des goélettes chez elles au Musée maritime de Charlevoix. Bon vent!